Alors, frères et sœurs, qui saurait me dire ce matin combien de fois notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il été tenté lorsqu'il était dans le désert ? Alors, est-ce que quelqu'un sait ? Trois fois. Tout le monde est d'accord ? Oui ? Vous en êtes sûr ? Trois fois. Alors, je vous avoue que c'est également la première réponse qui m'est venue à l'esprit. Mais, voilà, c'est pas ça. Le Seigneur fut tenté pendant 40 jours, et non trois fois, comme on le retient bien souvent. Alors justement, ce matin, ce que je vous propose, c'est de revoir ce passage ensemble, ce passage qu'on va lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, du verset 1 au verset 13. Donc ce passage où le Seigneur est confronté à la tentation du diable. Alors ouvrons notre Bible et lisons déjà ce passage. Donc Luc, au chapitre 4. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose de prier ensemble. Oui Seigneur, je veux te remettre Seigneur ce moment autour de ta parole, Seigneur ce moment où nous allons écouter ta voix Seigneur à travers ce passage, écouter ce que tu veux nous enseigner encore ce matin. Et oui Seigneur, que tu puisses m'utiliser Seigneur justement à cette fin Seigneur pour transmettre Seigneur ta parole Seigneur à mes frères et sœurs encore ce matin Seigneur. Amen. Donc il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Donc pas juste trois tentations, mais bien 40 jours de tentation. Alors, ce qui peut expliquer quand même peut-être notre méprise, hein, et ce qui fait que parfois on ne retient qu'il n'y a que eu trois tentations, c'est que si on prend par exemple l'évangile de Matthieu, Matthieu place la tentation au terme des 40 jours, sans rien préciser de plus. Et peut-être on peut se dire qu'on a lu plus souvent Matthieu que les autres évangiles, ça nous donne une petite excuse. Mais en réalité, si on prend Luc, ou même Marc, d'ailleurs, les deux rapportent bien que Jésus fut tenté durant tout le temps de son séjour au désert, sans interruption. Pendant toute cette période, au cours de ses méditations solitaires dans ce désert, Jésus fut assailli de pensées contraires à la volonté divine. Il fut assailli de suggestions de Satan, et qui se résumèrent et se concentrèrent, on va dire, dans les trois derniers assauts qui nous sont racontés ici à la fin de ces 40 jours. Mais avant de les détailler ensemble, de reprendre ces tentations une à une première question peut se poser à nous quand même, c'est « Mais que fait Jésus seul dans ce désert ?» Alors la réponse nous est donnée tout de suite dans le premier verset. « Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Jésus n'est pas là par hasard. Conduit par l'Esprit, nous dit Luc, emmené par l'Esprit, dit Matthieu, poussé par l'Esprit, si on lit aussi Marc. Quoi qu'il en soit, quel que soit le terme employé, si Jésus est là dans ce désert, si Jésus peut être tenté par le diable à ce moment-là, ben c'est l'œuvre du Saint-Esprit et non pas de Satan qui l'aurait amené là par la ruse. Mais pourquoi l'Esprit a-t-il fait cela? Pourquoi a-t-il poussé Jésus dans le désert? D'autant plus qu'il faut savoir que voilà, cet événement, se déroule juste après le baptême de Jésus. Juste après que Dieu ait reconnu en Jésus son fils bien-aimé, celui en qui il a mis toute son affection. Et si je vous pose la question, en tant que parent, mais auriez-vous envie d'envoyer votre enfant bien-aimé quelque part, où vous le savez, il vivrait une épreuve? Parce que Dieu savait ce qui allait arriver. Et pourtant, il n'empêche pas Jésus d'aller dans ce désert, et même il l'y emmène. Si on veut tirer un peu loin, on pourrait presque dire qu'au final, est-ce que ce ne serait pas Dieu qui aurait tenté Jésus en l'envoyant dans le désert? Alors bien sûr, je vais tout de suite répondre à ça, c'est non. Dieu n'est pas un tentateur. Jamais Dieu ne tentera un homme, une femme, dans le sens en tout cas d'essayer d'amener quelqu'un à pécher. Ce que fait par contre le diable. Mais si Dieu permet ce moment, c'est parce que Dieu ne nous tente pas, mais Dieu nous teste. Dieu veut nous mettre à l'épreuve. Dieu veut éprouver notre foi. Pourquoi ? Tout simplement pour l'améliorer, pour faire grandir notre foi. L'épreuve n'est pas une punition. L'épreuve fait partie du plan de Dieu pour révéler notre vraie nature, pour révéler le mauvais qui est en nous, pour révéler nos faiblesses, pour révéler notre besoin de Dieu, notre besoin d'un sauveur. Une autre raison pour laquelle Jésus fut emmené au désert était qu'en tant qu'homme, Jésus devait passer par la tentation, tout simplement car cela fait partie de la vie terrestre, de la vie humaine. Hébreux 4, dans le chapitre 4, verset 15, nous dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il devait passer par là pour nous comprendre pleinement. » C'est aussi une raison pour laquelle Jésus était dans ce désert. Jésus devait être tenté pour nous laisser un exemple. Je vais lire aussi 1 Pierre au chapitre 2. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Oui, Christ a souffert pour nous donner un exemple. La tentation par laquelle Jésus est passé ne pouvait pas révéler de choses mauvaises en lui, parce que Jésus est le seul homme parfait, le seul homme juste, le seul homme bon qui était sur cette terre, qui vit encore aujourd'hui, mais la tentation allait nous permettre ou allait permettre de révéler justement cette bonté de Christ, de révéler sa justice et son obéissance parfaite qu'il nous faut suivre. Enfin, la raison principale de ce passage, de cet épisode, de ces tentations, c'est que Jésus devait traverser ce désert et cette tentation pour nous donner la victoire. Alors pour comprendre cela, il faut revenir un peu à plus dans le passé, jusqu'à Adam, au premier homme, et se souvenir aussi de ce qu'il s'est passé au jardin d'Éden. Adam était le représentant de tous les hommes à l'origine, comme Jésus l'a été ensuite. Mais Jésus devait réparer l'acte d'Adam qui, bien que créé parfait, a cédé à la tentation et a transmis le péché à l'humanité entière. Jésus a lui résisté. Et sa victoire offre le salut à tous les descendants d'Adam, un salut accompli pleinement dans son sacrifice à la croix. Romains 5, versets 12 et 19 à 19 nous dit, et je vais lire le verset 19 uniquement, « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Oui, l'obéissance parfaite de Christ, sa victoire, nous appartiennent. Et ça, c'est quelque chose qui est formidable. Alors oui, Jésus a été emmené dans le désert pour être tenté par le diable, mais Dieu avait ses raisons et Dieu avait un plan. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que Dieu ne l'a pas laissé seul, n'a pas laissé seul Jésus dans cette épreuve. Il est écrit aussi dès le début, l'Esprit était présent, il était rempli d'Esprit. L'Esprit remplissait Jésus, ce que nous dit aussi dans Ésaïe au chapitre 11, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Dieu n'avait pas abandonné Jésus. Dieu ne nous abandonne jamais. Jésus avait été préparé pour ce moment, Il était équipé pour ce qui allait arriver. Et n'oublions aussi jamais ceci, frères et sœurs, c'est qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ça, c'est dans 1 Corinthiens. Parce que oui, Dieu est avec nous. Mais revenons maintenant, voilà, à ce désert. Revenons à la fin de ces 40 jours, à ce moment où le prince de ce monde ne voulait pas céder au prince de la paix sans une lutte puissante. Après tout, s'il pouvait se dire aussi, ben voilà, il avait vaincu le premier Adam dans le jardin d'Éden. Alors pourquoi n'arriverait-il pas à vaincre le second Adam, Jésus, dans ce désert? Alors regardons ensemble maintenant cette première tentation que le diable va employer pour essayer justement d'arriver à ses fins. C'est au verset 3. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Dans ce premier stratagème, Satan vient à Jésus, un Jésus faible, épuisé par 40 jours sans manger, donc il a faim. Il faut déjà avoir en tête que le diable ne tente jamais au hasard. Il voit nos faiblesses, il voit nos forces, et bien souvent il va les utiliser ou il va essayer de les utiliser contre nous. Il va profiter de nos faiblesses parce qu'il sait que c'est plus facile de nous influencer pendant ces moments où notre résistance est moindre, lorsque notre courage, notre force, notre patience, notre espérance même nous font défaut. Mais il est aussi présent, attention, lorsque nous sommes forts, lorsqu'il peut utiliser notre orgueil, le faire enfler en nous, contre nous, afin que nous ne ressentions pas le besoin ou plus le besoin de Dieu, que nous pensions pouvoir faire ce qu'il faut seul, sans Dieu. Alors ici, Satan propose donc à Jésus de faire un miracle afin de satisfaire, on va dire, son appétit, de pouvoir se nourrir. Et en soi, en quoi changer une pierre en pain serait mal? Jésus avait vraiment faim. Faire ce miracle n'aurait pas été un acte d'orgueil pour montrer sa puissance, se vanter, ou un acte pour satisfaire un désir mauvais, non. Manger, c'est une nécessité pour un homme. Donc pourquoi ne pourrait-il pas changer, pourquoi ne change-t-il pas cette pierre en pain? Pourquoi? Simplement parce qu'il a déjà compris quel était en réalité l'objectif de Satan. En lui disant, quand Satan lui dit à Jésus, « Si tu es fils de Dieu, Satan n'est pas en train de vouloir mettre un doute dans la divinité de Jésus. Il ne demande pas un miracle pour prouver cela, pour prouver qu'il est le fils de Dieu. Ce qu'il cherche à faire, c'est d'insuffler dans le cœur du Seigneur, dans le cœur de Jésus, la pensée, le sentiment qu'au final, il ne mérite pas ça, qu'il ne mérite pas ce qu'il est en train de vivre. Lui, le Fils de Dieu. Puisque tu es le Fils de Dieu, pourquoi devrais-tu attendre plus longtemps pour recevoir à manger? C'est ça qu'il lui dit. Puisque tu es le Fils de Dieu, pourquoi ne pas ordonner à cette pierre de devenir du pain, donc agir par toi-même plutôt que d'attendre? Le diable, en fait, essaye de persuader Jésus que tous les soins providentiels de son Père, tous les soins que son Père peut lui donner, qu'ils auraient dû déjà être manifestés. Que Dieu aurait déjà dû lui accorder ce dont il avait besoin. En tant que fils de Dieu, que Jésus ne devrait pas endurer cette faim, ne devrait pas devoir attendre. Satan voulait briser cette attente patiente de Jésus envers son Père. Il voulait que Jésus trouve que l'épreuve avait assez duré. Et c'est d'ailleurs une bonne question aussi qu'on peut se poser encore aujourd'hui. Y a-t-il une limite, un seuil, pour accepter d'endurer une épreuve? À ça, je vais répondre avec Hébreux, chapitre 12, versets 3 et 4. « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Jusqu'au sang. Jésus a obéi jusqu'à la mort, on le sait. Et comme on va le voir aussi avec sa réponse, face à cette tentation, il n'y a jamais un temps pour se révolter contre Dieu et dire « j'en ai assez ». Dieu est souverain Et nous devons donc accepter tout ce qu'il nous envoie. Il pourra nous arriver parfois de crier très fort, mais jamais nous ne devons nous révolter. Même si Satan, lui, utilisera tous les moyens pour nous faire croire que la providence de Dieu n'est plus, que Dieu n'écoute plus nos prières, qu'il n'est pas là, qu'il n'est pas à nos côtés, qu'on n'a pas d'importance pour lui, c'est faux. Satan ne veut juste quoi ? Il veut juste quoi ? Il ne veut rien d'autre que nous amener à l'incrédulité et au manque de foi. Et il est malin pour y arriver. Parce qu'encore une fois, ce que nous sommes tentés de faire n'est pas toujours mauvais en soi. Changer une pierre en pain, ce n'est pas un mal. Mais ce qui est mauvais, ce sont les motivations derrière. Le péché n'est pas dans l'acte ici, mais bien dans ce qu'il motive. Satan veut pousser Jésus à rechercher son bien-être en sacrifiant son obéissance au Père. Encore une fois, il lui dit « Je te conseille de le faire, car Dieu, ton Père, t'a oublié. » Mais si nous commençons à penser à obtenir la richesse par notre force, à obtenir le pouvoir de nos mains, à être en fait un peu nos propres sculpteurs, notre propre celui qui va être capable de se transformer, sans dépendre de la providence divine, frères et sœurs, nous devons alors considérer cela comme une tentation de Satan et le rejeter en conséquence. Parce que c'est bien le conseil de Satan de nous faire penser à une indépendance vis-à-vis de Dieu. Et donc face à cette tentation, on va regarder maintenant la réponse de Jésus en commençant par ces trois premiers mots qu'il va dire. Il est écrit. Tout de suite, Jésus montre qu'il ne va pas essayer de se défendre, de débattre, d'argumenter par lui-même. Mais par ces mots, il dit qu'il est venu affirmer, qu'il est venu maintenir l'autorité de l'Écriture. Il nous montre que notre force se trouve uniquement dans la confiance en Dieu et dans l'obéissance à sa parole. Sa parole qui dit effectivement que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ce texte, on le retrouve dans le livre du Deutéronome au chapitre 8, à l'époque où le peuple de Dieu a marché pendant 40 ans dans le désert, où Dieu a dit, voilà, il t'a humilié et t'a fait avoir faim, il t'a fait manger la manne que tu n'avais pas connue et que tes pères n'ont pas connue, afin de te faire connaître que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Cette deuxième partie, elle est écrite dans Matthieu ou Marc, mais pas forcément dans Luc, mais on la connaît, de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors à cette époque, le peuple d'Israël, lui, n'avait pas résisté à la tentation. Il n'a pas arrêté de gémir, de se plaindre. Mais Jésus, lui, n'a pas fait cela, il n'a pas réagi de cette manière-là. En reprenant cette parole, il affirme en fait que la vie de l'homme ne dépend pas seulement de la satisfaction de ses besoins physiques, mais avant tout de l'accomplissement des ordres de Dieu. Il dit qu'il obéira toujours à son Père, de qui il attend jour après jour l'entretien de sa vie, et qu'il n'usera pas du pouvoir qu'il a de faire des miracles pour sortir arbitrairement de la position dans laquelle Dieu l'a placé. Oui, Jésus vit pleinement de la parole divine, et il le montre. Vivre de la parole de Dieu, ça signifie garder entièrement la parole de l'Éternel, lui obéir parfaitement. Et seul Jésus a pu et pouvait le faire. Et c'est par son obéissance que nous avons aujourd'hui accès à la vie éternelle. Dans le Lévitique, on peut lire « Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. » Cette question est au fond la même qui se pose devant la conscience de tout homme. D'une part, l'Évangile lui dit « Renonce à tout, à toi-même, prends ta croix, suis Jésus dans la voie qu'il te propose pour régner avec lui. » Mais d'autre part, le monde invite l'homme à chercher la satisfaction de ses besoins naturels, de ses désirs égoïstes, à vivre pour soi-même, à se débrouiller seul. Et il nous faut choisir. Et ce choix à faire se représente à chaque pas dans la vie. Et il nous faut vaincre par l'obéissance et le sacrifice de soi-même. Et pour cela, avoir recours à une force qui ne se trouve que dans la parole de Dieu. Voilà ce que Jésus nous dit en répondant. Ici. On va poursuivre maintenant avec la seconde tentation. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Satan est un menteur, n'est-ce pas ? On le sait tous, la Bible nous le dit. Elle dit « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Vous trouvez ça dans l'évangile de Jean. Mais il y a quand même une question qui se pose ici. C'est est-ce qu'il est vraiment en train de mentir quand il dit que tout lui appartient ici et qu'il le donne à qui il veut ? Si on regarde dans la parole de Dieu, la parole de Dieu nous présente Satan comme le prince de ce monde, dans Jean chapitre 12. Elle nous le présente comme le Dieu de ce siècle, aux 2 Corinthiens chapitre 4. Elle nous dit encore que le monde entier est sous la puissance du malin, 1 Jean chapitre 5. Donc frères et sœurs, pour une fois, Satan ne ment pas. Il dit la vérité. Il a reçu la puissance et la gloire de ce royaume terrestre. Par la séduction du péché et de ses convoitises, le prince des ténèbres règne en effet dans le monde. Et nul doute que si Jésus s'était prosterné devant lui, il eût peut-être acquis effectivement une immense richesse, beaucoup d'honneur que le diable lui aurait accordé. L'objectif en fait de Satan à ce moment-là était de persuader notre Seigneur de saisir justement le pouvoir du monde par des moyens faciles. Entre guillemets. Il l'emmène au sommet d'une montagne, lui montre en un instant tous les royaumes du monde, et tout cela il promet de lui donner s'il accepte donc de se prosterner et de l'adorer, qui est un geste, se mettre à genoux, en soi c'est pas très compliqué. La concession était petite et la promesse était grande. Mais Jésus savait que tous les royaumes du monde lui étaient déjà promis. Donc la question était, voilà, comment devait-il en prendre possession ? Est-ce qu'il devait obtenir le monde en pliant les genoux, en cherchant à fonder son royaume par des moyens soit empruntés à la sagesse humaine, la voie vers laquelle le pousse Satan, et qui répond si bien aux aspirations de l'humanité naturelle ? Ou est-ce qu'il devait choisir le renoncement à tout ce que le monde pouvait offrir ? Choisir l'humiliation, la souffrance, le sacrifice de lui-même. En d'autres mots, devait-il choisir l'obéissance qui doit le mener jusqu'à la croix ou le raccourci plus facile et rapide qu'il ferait devenir roi sans passer par la croix ? Et voici ce que Jésus va répondre. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Encore une fois, il est écrit. Jésus garde toujours la parole de l'Éternel. Il continue à obéir parfaitement à celle-ci. Encore une fois, donc, il ne rentre pas dans un débat, dans une discussion, cette fois-ci sur l'identité du véritable propriétaire du monde. Non, Jésus sait que celui à qui nous obéissons, c'est celui à qui nous appartenons et celui que nous adorons en réalité. Et lui veut obéir à son Père. Parce que Jésus a démêlé le piège de l'adversaire. Il sait vraiment que voilà, se prosterner devant Satan aurait signifié refuser l'obéissance à Dieu. Sauf que Jésus n'est pas venu sur terre pour lui-même, mais pour accomplir le plan de son Père, pour arracher le royaume des mains de Satan. Et c'est par la croix que Christ est venu renverser la puissance du diable. Colossiens chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Par cette réponse, par cette obéissance, encore une fois parfaite, Jésus refoule toute ambition, tout désir de grandeur charnelle. Et il choisit quoi ? Il choisit de mourir crucifié, sous la colère divine, pour sauver le monde. En gardant la parole de Dieu, en obéissant, Jésus a alors reçu toute autorité après sa résurrection, en s'asseyant pour toujours à la droite de Dieu. Oui, en obéissant, Jésus a permis au final qu'ait lieu le jugement de ce monde. Et qu'ainsi, le prince de ce monde soit jeté dehors. Ce qu'on peut lire dans l'évangile de Jean. Alors après cette deuxième tentation, le diable va encore essayer une fois avec une troisième. Et donc le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera les ordres, des ordres à ses anges, à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Dans la première tentation, par « si tu es fils de Dieu », Satan voulait amener Jésus à un manque de foi, à l'incrédulité. « Ne te laisse manquer de rien, aide-toi toi-même. » Mais ici, les mots signifient, en réalité, « n'aie peur de rien, Dieu t'aidera. » En fait, Satan voit la confiance que Jésus a en son Père. Il voit bien qu'il n'arrivera pas, avec les autres tentations, à le détourner de cette confiance. Alors, plutôt que de l'amener à ne plus avoir confiance, il essaye une autre stratégie. Il veut essayer de l'amener à désobéir à Dieu par sa confiance en Dieu. En gros, il lui dit, mais tu es sûr que Dieu ne peut pas t'abandonner. Il te l'a promis dans sa parole, alors saute. Va jusqu'au bout de ta confiance. Jette-toi dans le vide, parce que Dieu sera là pour toi. Il te l'a promis, tu ne crains rien. En fait, du manque de foi que Satan a essayé de mettre dans le cœur de Jésus, en fait, il essaye maintenant de le faire passer en quelque sorte à l'excès de foi, qui peut être aussi un danger. Il veut inciter en fait Jésus à forcer Dieu à agir. Et pour cela, Satan, il l'apprend hein, aussi de ce qui n'a pas marché, alors il va s'appuyer sur la parole de Dieu. Parce qu'il avait remarqué que deux fois, Jésus lui avait opposé comme un bouclier une parole de l'Écriture. Alors à son tour, il va essayer de se servir de cette arme. Parce que frères et sœurs, oui, attention, le diable connaît la parole de Dieu. Et l'utiliser contre nous, comme il l'a fait contre Jésus, est quelque chose qu'il fait très souvent. Alors s'il s'agit de la parole de Dieu, en quoi cela peut-il être mal pour nous, peut-il être mauvais pour nous? En quoi cela peut-il nous tromper? Ben, tout simplement parce que Satan l'utilise à son avantage en ne prenant en réalité que certaines parties de la parole de Dieu, en occultant les versets qui viendraient compléter peut-être justement ce qui est dit, qui nous permettrait de comprendre la vérité et de voir qui est Satan réellement, ou de voir ce que le Seigneur veut réellement nous dire. Ici par exemple, Satan cite le psaume 91. Un psaume dans lequel l'Éternel garantit son secours à l'homme qui se confie en lui. Sauf qu'il l'interprète volontairement de la mauvaise manière. Le psaume 91 a en effet pour but de montrer la protection de l'Éternel pour ses enfants, mais il n'a pas pour but de les inciter à utiliser la puissance divine pour satisfaire leur soif de sensation ou leur désir. Parce que, et oui, prendre qu'un extrait, qu'une partie de l'Écriture, c'est une erreur et c'est un danger et un mensonge. Si on regarde dans le monde aujourd'hui, on peut se dire aussi qu'une des grandes réussites du diable, justement, ça a d'ailleurs été fait de cette manière. Il a réussi à faire croire au monde à un Dieu bon, un Dieu miséricordieux qui sauvera tout le monde. Alors ce que je dis peut peut-être vous surprendre, parce que Dieu est bon, bien sûr, parce qu'il veut sauver tout le monde, oui, qu'il a fait tout ce qu'il faut pour pouvoir sauver tout le monde, c'est vrai aussi. Mais Dieu ne sauvera pas tout le monde. Parce que Dieu est bon, mais pas que. Dieu est amour, mais pas que. Dieu est justice. Dieu est un Dieu aussi qui va juger. Un Dieu qui ne se mélange pas, qui ne peut pas cohabiter avec le péché. Parce que Dieu est tout simplement vérité. Dieu est tout simplement la vie dont Jésus est le chemin. Alors s'arrêter à Dieu est bon, comme le fait si facilement ce monde, ça crée un faux Dieu. Et ça fait de ceux qui suivent ce Dieu des idolâtres et des perdus. Comme il est écrit aussi dans Deutéronome au chapitre 4 ou dans Apocalypse au chapitre 22, nous ne devons rien n'ajouter ni rien retrancher à la parole de Dieu. Elle est parfaite, elle est complète, elle se suffit à elle-même. Et nous devons la prendre telle que le Seigneur nous l'a donnée. Alors pour revenir à cette tentation, Satan incite donc Jésus à forcer son Père à agir. Sauf que Jésus comprend qu'agir ainsi, vouloir forcer Dieu, serait tenter Dieu lui-même. Tenter Dieu dans la première tentation, c'était quelque sorte murmurer contre lui, contre ses dispensations. Et ici, tenter Dieu, ce serait d'exiger de lui des manifestations extraordinaires de sa puissance et de sa bonté. À titre d'exemple, nous tentons Dieu quand nous lui passons des conditions, en particulier pour lui obéir. Seigneur, si tu me bénis, si tu fais ça pour moi, voilà ce que moi je ferai en retour. En faisant ça, vous êtes en train de tenter Dieu. Nous le tentons quand on le prie d'intervenir aussi dans notre vie, dans des situations, sans avoir réellement l'intention d'obéir nous-mêmes à ce qu'il va nous demander. Ou alors en continuant à avoir une vie à cheval entre le monde et le ciel, à continuer à vivre dans le péché. On le tente à ce moment-là aussi. Et frères et sœurs, c'est une vraie question qu'on peut aussi se poser. Si je pouvais forcer Dieu à intervenir, que ferais-je? Est-ce que j'attendrais en silence son intervention? Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Voilà la réponse de Jésus. Parce que Jésus tient bon. Il continue d'obéir à la parole de Dieu, à garder ses commandements et à vivre de la parole divine. Il est hors de question pour lui qu'il cesse de s'attendre à Dieu. Il est hors de question qu'il cherche à forcer Dieu à agir. Comme le dit Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 6, en tout cas ça nous est relaté, « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Oui, Jésus continue à se soumettre à son Père, et nous sommes nous aussi aujourd'hui appelés à nous soumettre à Dieu. Et si nous le faisons comme Jésus l'a fait, alors le diable s'éloignera de nous. Jacques nous dit aussi, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » C'est un peu la conclusion avec ce verset 13 aussi dans ce passage. Mais alors, frères et sœurs, que retenir de tout ceci, ce matin? Déjà, ce rappel de trois des armes favorites du diable contre nous. L'incrédulité, la convoitise des yeux, ou encore la prétention de ce que Dieu nous doit. Ces trois armes que Satan travaille toujours contre notre arme, contre notre âme, et par lesquelles il nous entraîne toujours à faire ce que Dieu interdit et à tomber dans le péché. Ensuite, retenons qu'une seule arme est efficace contre la tentation. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, comme ça nous est dit dans Éphésiens au chapitre 6. La parole de Dieu est notre épée, et la foi en cette parole est notre bouclier. Alors quand nous sentons l'attrait de la tentation, une seule solution, faire comme Jésus. S'appuyer sur la parole de Dieu et s'accrocher à notre engagement d'adorer Dieu seul et de le préférer à tout. Quoi que cela puisse coûter, les chrétiens ont un exemple à suivre, Jésus. Et comme lui, ils sont appelés à tenir bon. Alors ne rentrons jamais en discussion avec le diable, mais proclamons la vérité de la parole contre laquelle il ne peut résister ou contester. Un autre point à retenir ce matin, c'est que oui, la parole de Dieu est une épée, mais nous devons prendre garde de bien la connaître si nous voulons l'utiliser avec effet. Pour s'en servir efficacement, il nous faut avoir foi dans les promesses de Dieu. Car encore une fois, Satan la connaît aussi. Et il excelle à la déformer pour atteindre ses buts. Et obéir à la parole de Dieu, c'est plus important que d'avoir simplement un verset à citer. C'est bien d'apprendre les versets, mais le mieux c'est de savoir quand et comment les utiliser, de connaître l'ensemble de la parole. Et pour garder l'épée toujours tranchante, justement une seule solution aussi, il faut lire l'Écriture, la lire régulièrement, quotidiennement, à chaque instant et la mettre en pratique. Et pour terminer, ce que je veux vous dire, c'est rester sur vos gardes. Nous pouvons gagner des victoires contre Satan, mais il y aura d'autres confrontations. Le diable continue de rôder, attendant, comme il est écrit aussi au verset 13, un moment favorable. Et nous avons tous déjà échoué face à la tentation. Et le tentateur nous fera encore tomber, parce qu'il ne s'éloigne jamais très loin. Alors que le fait que le diable nous tente ne nous surprenne jamais. Parce que cet esprit puissant qui n'a pas craint d'attaquer Jésus lui-même, eh bien, il agit toujours comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer, et d'autant plus aussi parmi les enfants de Dieu. Mais je vous laisse aussi avec cet encouragement, qui est la chose même la plus importante à retenir ce matin, c'est que Jésus a vaincu le diable. Sa confiance en Dieu l'a mené à la croix, à la mort, mais sa mort n'a pas été la fin de l'histoire. Le Seigneur est ressuscité, le Seigneur est vivant. Et par la croix, son obéissance, sa victoire est la nôtre. Alors que le Seigneur vous bénisse. Amen.